Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. RMC,
entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, dans quelques semaines, une sixième étoile viendra orner le maillot du Stade Toulousain. Sixième étoile, synonyme de sixième titre en Champions Cup que les hommes du Gomola sont allés arracher de haute lutte ce samedi à Londres en battant leur bête noire, le Leinster, qui n'en finit plus de perdre en finale contre les clubs français. Et pour ce faire, Toulouse a livré un match de patron, notamment là où on l'attendait moins, en défense et dans le grattage, dans les grattages, les stades sont dingues. On vous les donnera dans un instant. Toulouse sur le toit de l'Europe et même de l'Afrique du Sud. Alors ce nouveau titre change quelque chose au statut des joueurs actuels? En gros, cette génération a-t-elle désormais marqué d'histoire? Hugo Mola avait su titiller ses joueurs il y a quelques jours. Il a eu la réponse qu'il attendait sur le terrain. Et comment ne pas évoquer non plus la performance XXL de la star du rugby français, Antoine Dupont, auteur d'un match de fou, un match qui marque une carrière. Dupont est-il encore plus fort cette saison que les années précédentes? On en débattra. On parlera enfin de l'avenir à court terme du stade, d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales du top 14 et qui va pouvoir souffler. Y a-t-il vraiment quelqu'un pour empêcher les Toulousains de réaliser le doublé? Là aussi, débat entre les poteaux. Nos poteaux, les voici, les voilà, avec notre ami, notre Antoine Dupont à nous, hein, la star absolue des poteaux, évidemment.
Faut pas exagérer. Merci,
c'est gentil.
Bravo, Wilfried.
Non, c'est pas Wilfried. C'est pas, non, Wilfried. C'est pas Wilfried. C'est Denis, évidemment, de retour de blessure, qui a affûté comme une épée, beau comme un canon.
Mais Christophe, il était là la semaine dernière, mais toi, t'étais en vacances.
Ouais,
il est revenu avec nous la semaine dernière, mais pas avec toi.
Ouais, mais là, il va être meilleur. Tu sais, là, la semaine dernière, il revenait de blessure, il était avec l'équipe B. Il était,
voilà. Il était 3 minutes dans les jambes.
Voilà, là, maintenant. Voilà.
Non, mais je suis avec l'équipe A, oui, le top 14. Avec Christophe Cessieux, c'est le top 14.
lui aussi, il est beau comme un camion. Un plus petit, disons, un jumpy. Voilà, Wilfried Templier. De retour d'une tournée triomphale au Royaume-Uni. Ça va, mon Will?
Mais avant de commencer, est-ce qu'il est pour Toulouse ou La Rochelle? L'année dernière, il était pour La Rochelle.
Ça dépend, c'est la géométrie variable avec.
C'est Toulouse qui gagne. Donc si tu veux, chaque année il gagne, lui, en fait.
Je suis journaliste, tu sais, les faits, Denis, c'est tout.
Mais dans la famille, tu sais, il y a des enfants qui portent le maillot de La Rochelle, d'autres le maillot du stade Toulouse.
Papy, oui. Les enfants, c'est Toulouse,
amoureuse,
papy, c'est La Rochelle.
Capuzzo.
C'est bon.
Et puis on accueillera, je sais pas où il est, mais on va accueillir Julien Landry qui va arriver. Bah lui aussi il rentre d'Angleterre, mais c'est loin pour aller jusqu'à Montpellier, évidemment.
Ouais, et puis des fois quand t'as pas le passeport, c'est difficile. Voilà. Tu lui demanderas si le voyage s'est bien passé, l'aller au retour.
Il y a des petits problèmes de passeport. Notre ami Julien. Bon, on va lui demander quand il arrivera. Mais à mon avis, il est retenu à la frontière. Ah non, il est là. Ça y est, les douaniers l'ont relâché. Salut Julien.
Bonjour messieurs.
Allez, voilà,
on se moque pas de mon passeport.
Quoi, t'avais pas regardé les dates?
Non, c'est pas que j'ai pas regardé les dates, c'est que je suis arrivé à Toulouse, moi, homme qui voyage souvent en me disant l'Europe, ça fait partie encore de l'Angleterre, et quand la dame m'a demandé passeport, je lui ai dit « Ah, mais mon passeport, malheureusement, il est à Montpellier. » Donc vous pouvez prendre l'avion, monsieur, pour aller à Londres.
Et t'as fait comment alors?
Donc je me suis fait un petit aller-retour jusqu'à mon partir de Marseille,
ça,
finalement,
ça.
Très tôt vendredi matin.
Levé à 3h30 du matin, sympa. Quand il m'a appelé, il m'a dit « tu vas pas rire », j'ai vite compris. Voilà. Mais bref, c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet parce que le sujet, évidemment, c'est ce match incroyable auquel vous avez assisté, auquel on a tous assisté, certains dans le stade, d'autres devant leur petit écran. Alors il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'essais dans cette finale, il a même fallu attendre la prolongation pour enfin en voir quelques-uns. Mais quelle intensité, quel suspense, un vrai grand match de rugby.
Partout entre les deux équipes, il y aura une continuité à ce match. Et ce combat de boxe n'est pas fini, Christophe. Il va marquer l'essai de Mathis Tobel. Ça passe entre les perches. 7 points d'avance pour Toulouse, 22-15. Peut-être plus 10 sur cette pénalité qui va passer entre les perches, évidemment. 25-15 pour Toulouse, le plus 10. Aïe. Bah oui, carton rouge pour Richie Arnold,
et
oui.
Et les Irlandais vont se retrouver à 15 quand les Toulousains vont jouer la deuxième
période à 14.
Essai ! Aïe, essai accordé à Josh Van Der Vlier avant la transformation. Le Leinster revient à 25-20. C'est terminé. Victoire 31-22 du Stade Toulousain qui remporte la guerre des étoiles. La sixième étoile va du côté du Capitole.
C'est incroyable parce que dans cette prod, on a surtout pris les éléments qui interviennent après le coup de sifflet final en fait du temps réglementaire, c'est-à-dire la prolongation. Mais le match en lui-même a été très spectaculaire aussi. Il n'y a pas eu d'essai pendant les 80 premières minutes, mais c'est vrai que
on s'est pas ennuyé.
On s'est pas ennuyé, pas une seule seconde, hein, pas une seule seconde. Non. Mais c'est vrai que tout s'est joué dans cette prolongation de folie, hein, Wilfried.
Oui. Enfin, ça c'est l'intensité a augmenté, les essais enfin, le score qui voilà, Toulouse prenait le large, mais finalement non, avec le rouge, on croyait que c'était un plus 13 avant la vidéo et le rouge sur Arnold. Finalement, ça devient un plus 3 seulement. Julien l'a dit, à 14 contre 15, donc ouais, c'était dingue, c'était étouffant. Mais tout le match, hein, du début à la fin, prolongation, c'était étouffant. On en est sorti vidé. Vraiment, nous aussi, ils ont donné beaucoup plus sur le terrain, mais on en est sorti vidé.
Ouais, Denis. Devant ton petit écran, parce que tu n'étais pas au stade.
J'ai vu le match avec Vincent Moscato et Bernard Laporte, pour ne rien vous cacher. Et ce qui était bluffant, pour moi, ce qui est bluffant, c'est cet état d'esprit qu'anime cette équipe. J'ai rarement vu. Alors, on a pu le voir avec La Rochelle l'an passé, quand même, cet état d'esprit-là, mais là, quand même, c'est cette résilience, rien lâcher. Puis tu l'as dit, c'est quand même le carton rouge qui. Tu te dis, ils ne peuvent pas le faire. Puis ils vont le chercher en seconde mi-temps dès la prolongation, et c'est incroyable ce qu'ils font, quoi. C'est incroyable.
Ouais, Toulouse qui s'impose donc 31-22 après prolongation, qui remporte là sa 9e finale d'affilée, hein, top 14 et Champions Cup réunis. Mais les titres ont beau s'accumuler depuis des décennies, ils provoquent toujours autant de bonheur à ceux qui les obtiennent. Écoutez la réaction de celui justement qui a été l'un des principaux artisans de cette victoire, la star Antoine Dupont.
Un pur bonheur, tout simplement. C'est des moments, des émotions qui sont durs à décrire avec des mots. On s'entraîne tellement dur pour ça, et on sait que quand on est aussi proche de le toucher, il faut arriver jusqu'au bout, parce qu'on ne sait pas quand ça se représentera. On a eu la chance de la soulever il y a 3 ans maintenant. On sait la difficulté que c'est de gagner cette compétition. On a échoué 2 fois en demi-finale les 2 dernières années. Et cette année, on sentait vraiment qu'on avait la capacité d'aller au bout. Donc maintenant que c'est fait dans un match pas simple, on va pas se mentir, c'est un pur bonheur.
Denis, tu as connu toi aussi le bonheur de finale gagnée avec le Stade. 3 titres de champion de France en 5 ans, dans les années 80. Est-ce que ça procure autant de toujours autant de bonheur? On finit pas par s'habituer à la victoire quelque part?
Non, j'ai envie de dire que ça a un goût différent à chaque fois. Je pense qu'Antoine Dupont, ce titre-là, il est différent pour lui aujourd'hui, parce qu'il est devenu capitaine de cette équipe. Il a un rôle de leader. Je pense qu'il a dû apprécier différemment. Mais cette équipe, elle est animée par cette soif de trophée, quoi. C'est assez étonnant. Ils sont jamais rassasiés et ils continuent.
Et puis c'est face au Leinster, là, en plus, Denis. À la bête noire qui les avait éliminés. C'était sommet européen, quoi.
Oui, on parle d'Antoine Dupont, mais on est obligé de quand même d'évoquer ce garçon qui
alors, pour on va l'évoquer,
ouais,
Antoine Dupont.
Hein, ouais. On va l'évoquer, mais mais si tu changes de côté, je suis pas sûr que ce soit la même équipe qui gagne. Tant son influence de leadership est époustouflant, quoi, à tous les niveaux. Enfin, on en parlera.
Ou si tu le mets en 10 à la place de Ross Byrne, hein, parce que le
oui, exactement. Byrne, bien sûr.
Et puis la différence, c'est que, entre guillemets, Denis gagnait que le top 14 quand il jouait avec Toulouse. Là,
il n'y avait pas la Coupe d'Europe à l'époque.
Il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Là, il y avait cette volonté de gagner cette compétition qu'il n'avait plus gagné depuis 2 ans et qui était clairement l'objectif annoncé.
Non, mais t'as raison, Julien.
L'objectif annoncé dès le mois de septembre par Didier Lacroix, en disant, dans une année de Coupe du Monde, les joueurs ont ciblé clairement cette compétition-là. D'ailleurs, on l'a dit, hein, on l'a répété, ils ont fait le 100% match de poule, meilleure attaque, 20 points. Ils ont tout fait pour aller décrocher ce titre. Alors évidemment que voilà, c'est la récompense, en fait, ce titre-là, c'est la récompense d'une saison pleine du Stade Toulousain.
Mais d'ailleurs, on a posé la question à Bouillou la semaine dernière avec les membres patronaux qu'on avait reçus. Et effectivement, ils parlaient de mission. Ils sont en mission depuis le début de la saison. Ils avaient coché cet objectif-là. Ils en sont. Et chapeau à eux d'avoir réussi de cette manière-là.
Alors déjà, à ton époque, Denis, donc, le Stade était un spécialiste des finales. Comment on explique cette science des finales? Est-ce que c'est l'expérience qui parle, justement? Parce que là, on est à des statistiques tout simplement incroyables pour le Stade.
On parlait la semaine dernière, Christophe, j'ai essayé de répondre Denis, mais rappelle-toi Denis, je disais c'était 27 sur 37 en championnat de France et Coupe d'Europe, donc ça fait 28 sur 38 maintenant, on en a parlé un peu, mais oui, ça s'arrête.
Mais non, mais je crois sincèrement que les générations passent, mais elles servent à quelque chose. Je crois que cette culte de la gagne, notamment en finale, elle, ça remonte de loin, hein, de nos années 80 à l'époque, où il y avait effectivement, on perdait pas de finale. Et après, ça a continué, ça a perduré parce qu'il y a eu cette, on a inculqué ça, mais Guinoves a continué puisqu'il était avec nous, il a gagné deux titres avec nous. Après, il est devenu entraîneur, et bien, il avait ce culte de la victoire et cette faculté à préparer les finales comme il fallait. Je crois que c'est pas un hasard. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Je pense que c'est pas un hasard que quand en finale, ben ils gagnent souvent.
Ouais, l'habitude.
Ils ont la capacité à tuer les matchs. Hein. C'est quand même ça qui est incroyable. Ils ont marqué quand même plus de points en prolongation samedi que pendant l'intégralité du match et qu'ils ont tué le match sur le carton jaune de James Lowe. Où à ce moment-là,
ils savent saisir leur adversaire à la gorge.
Exactement.
Quand
ils ont eu 10 minutes de difficulté numérique, ils ont marqué un essai, une pénalité et ils ont mis les Irlandais à 10 points. Mais... Donc ils ont résisté pendant longtemps et au moment où ils ont senti que c'était l'occasion pour eux d'aller peut-être tuer ce match-là, ils l'ont fait.
L'an passé, ils sont champions parce qu'ils renoncent jamais et qu'à la dernière seconde, ils continuent à jouer. Ils n'ont pas peur de jouer. Et il y a cet essai de Romain Tamac qui est extraordinaire. Mais c'est parce qu'il y a cette résilience. Je ne sais pas comment on pourrait dire pour cette équipe. C'est assez étonnant, mais
Résilience.
Ouais, non, mais je crois que Mais je crois qu'ils en ont beaucoup parlé aussi, Hugo Mola en parlait, Thibaut Flamand et Romain Tamac, ils en ont parlé aussi après match. Je crois qu'ils ont aussi une immense confiance en eux, dans ce qu'ils savent faire, du potentiel qu'ils ont. Hugo Mola le disait avant le match, il dit vous avez l'impression qu'il y a des contractions qui sont très légers. Ils me surprennent moi-même, mais ce groupe-là a la capacité à appréhender de la très bonne des manières ces moments-là.
Et puis,
Thibaut Flamand le disait après match également, disait on a une confiance absolue en nous. Il y a des fois, on a été breaké par le Leinster et il y a toujours quelqu'un qui est revenu rattraper les coups. Ciao. Je sens qu'il y a une confiance qui se dégage de ce groupe-là qui est inestimable peut-être pour Hugo Mola aujourd'hui.
On va l'écouter d'ailleurs écouter Antoine Dupont,
juste
vous parler
dire,
de ça justement.
Que, dis-le alors. Non mais je veux juste un truc à dire qui me semble important, c'est qu'ils avaient quand même perdu deux fois en demi-finale contre Leinster dans un passé très récent et Jean Bouillou nous expliquait la semaine dernière Wilfried que effectivement il les regardait plus et que là
le regard avait
il veut plus rivaliser que maintenant. C'était fini parce que maintenant il disait on va prendre le jeu à notre compte. Et c'est ce qui s'est passé samedi. C'est donc si tu veux dans l'approche du match, ils ont changé quelque chose. Donc ils ont appris de leurs erreurs aussi.
Allez, on écoute Antoine Dupont justement nous parler de cette confiance, du fait de ne pas s'affoler même dans les moments un peu difficiles, parce qu'ils ont donc connu quand même des moments difficiles les Toulousains dans ce match.
Oui, peut-être c'est vrai qu'on a senti vraiment de la tension. On a vu après cet essai du Leinster une ferveur incroyable de leur côté. Donc on a senti qu'on était on était dans l'adversité et on a aussi, je pense, maintenant l'expérience de ces matchs-là, de ces moments-là, de cette expérience-là, de ne pas s'affoler, de continuer à être nous-mêmes, à jouer notre rugby, à être sûr de nos bases, à garder cette confiance-là. Et oui, c'est vrai que plus c'est dur, plus ça fait plaisir à la fin, mais bon, honnêtement, si on avait pu le gagner plus simplement, on aurait dit OK quand même.
Et ils auraient pu le perdre à la fin avec un drop quand même, qui est passé à quelques centimètres.
Hein. Non, ils n'auraient pas perdu, Denis, le drop. Le Leinster aurait eu la balle pour aller marquer derrière.
Non, mais s'ils passent le drop,
c'est fini.
Non,
mais ils auraient pu le perdre en deuxième mi-temps. Surtout quand on voyait la mêlée qui tanguait, on voyait le Leinster prendre l'avantage, les mettre en difficulté sur le jeu au pied. À un moment, on s'est dit, on le voyait venir. Et finalement, non, ils lâchent pas. Hein, mais ils ont cherché les points forts du Leinster. T'en parlais, Christophe, et ils sont adaptés parce que ils ont fait un match qu'ils ont jamais fait en campagne européenne. On disait, ils ont marqué plus de 44 points de moyenne dans les matchs, plus 6 essais et demi.
Et là, ils ont joué un jeu différent, complètement différent, notamment au sol, notamment en défense. Tiens, c'est un tueur de sang-froid, le Stade Toulousain, qui sait frapper son ennemi, on le disait, lorsqu'il est en difficulté, et qui sait vraiment se transformer. Il a des tentacules de tous les côtés, le Stade Toulousain. Hugo Mola, justement, qui nous parle de ce jeu au sol qui a été prépondérant samedi.
Quand on tire le trait, 12 ballons, c'est déterminant à ce niveau-là. Je crois que c'est 12 à 4, 12 à 5. Évidemment, c'est des turnovers précieux, notamment proche de nos lignes. Je crois qu'Antoine y est pour deux fois, mais pas que lui. Je crois qu'on a cogné fort dans ce secteur-là. On sait qu'on est capable de faire l'effort. Et puis, je pense que sur ce secteur-là, en tout cas, on avait à cœur de répondre à présent parce qu'on sait que le Leinster est une équipe redoutable dans ce secteur de jeu. Donc, tu gagnes des finales très certainement quand tu es capable de rivaliser sur les points forts de ton adversaire. Et en l'occurrence, ce soir, ça a été le cas.
Voilà, le Stade toulousain qui est un caméléon, qui est un caméléon qui s'adapte au point fort de ses adversaires.
Tu sais à quoi ça me fait penser, ça à 2021, à la finale contre La Rochelle aussi, en top 14, prendre l'adversaire sur ses points forts. Il leur avait cassé la bouche devant.
Mais non, mais c'est ce qu'ils ont fait face à Harlequin.
Ils avaient joué à 14 aussi. Ils avaient joué à 14.
Non, je parle pas de Twickenham, Denis. Je parle de la finale après où il n'y a pas eu de match. La finale de championnat.
Ah oui, oui.
Voilà, presque sous la pluie et tout. Et là, c'est pareil, Denis, sur le jeu au centre. Eh bien, les contre-rucks, des choses comme ça, ils ont fait très très mal au Leinster.
Non, mais ils ont battu ils ont gagné la bataille des rucks, c'est certain, mais je pense quand même qu'au niveau de la stratégie, ils ont dû beaucoup étudier le Leinster, ils ont dû beaucoup revoir leur copie, parce que en demi-finale l'an passé, ou il y a deux ans, ils avaient joué un peu à l'envers. Là, ils ont joué sur les points forts du Leinster, c'est-à-dire qu'ils ont retardé les sorties de rucks, ils sont allés chercher les contre-rucks, et finalement, ils ont perdu la vitesse dans le jeu, le Leinster, qui fait souvent leur force. Et aujourd'hui, et on dit que le Leinster n'a pas été au niveau. Ouais, mais ils n'ont pas été au niveau parce que le Stade Toulousain les a contrariés dans le jeu.
Ça se joue un poil de voilà, pas au niveau.
Oui, mais ça se joue, mais
à la fin.
Oui,
mais... Non, mais je suis pas sûr qu'on puisse affirmer que le Leinster n'a pas été au niveau.
Leur jeu était moins fluide que d'habitude.
Moins léché, moins fluide. Ouais.
Leur jeu est différent.
Moins clinique.
Depuis quelques matchs.
Oui, mais c'est parce que les Toulousains les ont un peu.
Mais t'as parlé de l'ouvreur. Je pense que l'ouvreur a été catastrophique. Il y a aussi des... il a été moins bon. Ouais. Je pense que dans la fluidité justement du jeu, il a été catastrophique. Il me semble.
Il fait que des passes en plus. Il attaque pas. Il fait que.
Oui, mais des mauvaises passes aussi. Il attaque pas donc.
Non, mais il pèse pas. Il pèse pas sur le jeu, Rosburn en fait.
Non, il pèse pas du tout, mais il a pas été à la hauteur de Sexton qui est au très haut niveau et qui aurait sûrement changé la donne samedi. Hein. Ouais. Il me semble.
Le match le plus défensif de l'histoire du Stade Toulousain, certains en parlaient justement après la rencontre. Julien, donne-nous quelques chiffres histoire quand même d'étayer nos propos, parce que c'est vrai que Toulouse nous avait pas justement habitué à ce genre de match en défense qui ont été tout simplement énormes.
Ouais, alors une donnée déjà à prendre en compte, c'est qu'il y a eu 100 minutes dans ce match, donc évidemment les chiffres de plaquage sont au-delà de ce que la norme peut être. Tu joues en plus contre une équipe irlandaise qui a quand même la vocation à multiplier les temps de jeu, à garder les ballons, donc à beaucoup plaquer. Mais c'est vrai que les Toulousains ont plaqué 261 fois dans ce match, avec un taux incroyable de 91% de réussite, ce qui est complètement fou, contre seulement 129 plaquages pour les Irlandais. Et avec 5 joueurs toulousains qui ont fait plus de 15 plaquages. Alors les chiffres, ils varient en fonction des statistiques, mais Jack Willis, il est entre 29 et 31 plaquages. 31 plaquages pour Jack Willis. Denis parlait notamment de cette volonté de ralentir les rucks. On l'a vu sur plusieurs séquences de jeu, Jack Willis, venir plaquer, contre-rucker, taper la balle de Gibson Park. Il a été monstrueux. Mathis Lebel, Movaca, François Cros, Romain Saint-Amac sont à plus de 15 plaquages, les 5 joueurs. Et pour Mathis Lebel, 17 plaquages. Je pense que c'est ce qui plaque peut-être des fois en une saison entière, Mathis Lebel. Et ben, il a fait cette performance-là sur un seul match.
Ouais. Tiens, on va l'écouter justement, parce qu'il était même lui était surpris quand même de ses stats.
Il l'avait pas, on lui a dit.
Je crois que c'est vous qui lui avez fait annoncer ses stats. Tiens, on l'écoute.
17, c'est beaucoup, je crois. Il faudrait pas qu'il me fasse jouer trop d'ennemis. Ben, en vrai, non, mais je pense que il n'y a pas que moi, il y a tout le monde. Il y a le joueur, je crois, Jack, qui finit à presque 30 plaquages. Donc, 30 plaquages, Romain, il en a fait un nombre incalculable aussi. Donc, je pense que c'est à la hauteur de l'événement et il fallait répondre, on savait qu'il fallait répondre présent au moins sur tous les critères de jeu, Et on a été quand même mis à mal sur quelques points, mais. Au final, le groupe, encore une fois, il a été énorme, on peut le dire, je pense.
On peut le dire, effectivement. Tout le groupe, hein. Il y en a pas beaucoup qui ont été en dessous de l'événement. Vous en avez quelques-uns, quand même, qui vous ont un peu déçu, peut-être en première ligne.
Deguerri était un peu secoué. Oui, il a un client en face, hein, Andrew Porter.
Ouais, mais la mêlée toulousaine a quand même été plusieurs fois.
Ça a tangué, c'est vrai.
C'est dur pour lui, mais celui que j'ai trouvé moins tranchant, qu'on avait vu très beau en demi-finale, c'est Paul Coste, mais qui avait aussi un très grand client face à lui avec Henshaw. Et qui a perdu en plus Aki très vite en début de match. Il ne faut pas oublier, le Stade Toulousain perd Aki.
Ouais, mais la rentrée de Chocobar, c'est très grande.
Mais l'entrée de Chocobar, c'est très bonne. Mais c'est vrai qu'on a vu un Paul Coste moins 30.
Plus discret, on va dire. On ne va pas dire moins bon, mais plus discret.
Plus discret qu'il avait pu nous montrer en demi-finale. Mais non pas qu'il a fait un mauvais match, mais un peu plus discret qu'il avait pu être.
On a vu le.
tu as raison, et en même temps on a vu la différence quand Chocobarès est rentré physiquement, il était monstrueux.
Oui.
J'ai été bluffé par la rentrée de ce joueur qui c'est pas évident de rentrer dans un match comme ça et d'être à la hauteur comme c'est une rentrée incroyable. Il va gagner des points et à mon avis on risque de le retrouver en demi-finale.
Il y a quand même quelques joueurs étrangers dans cette équipe du Stade Toulousain, parce qu'on parle beaucoup de la formation toulousaine, des stars de l'équipe de France, mais quand tu as des Chocobarès, des King Horn, des Malia, des Willis, c'est énorme. Il se rate rarement quand même dans le recrutement.
Jamais. Ah, peut-être Lolala cette année. Ils sont peut-être trompés sur Lolala. Mais bon, peut-être qu'il y aura.
Et encore, faut le laisser. Bah, il s'est fait une entorse, là, mais il faut le laisser s'adapter quelques mois, peut-être. Il arrive de Nouvelle-Zélande. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait réfléchir. Mais on a plus de noms qui nous viennent en tête que de recrutements réussis que de ratés, hein. C'est sûr, ouais.
Alors, lui aussi avait été recruté par le Stade Toulousain. C'était en 2017. On l'annonçait déjà comme un phénomène. Et depuis, eh bien, Antoine Dupont n'a cessé de progresser.
Lui, c'est pas trop raté.
Ah, non. ni les recruteurs. Il n'a cessé de progresser dans tous les domaines. Hein. Là aussi, à l'image de son équipe, il a livré un match exceptionnel, mais là où on l'attendait moins, notamment en matière de grattage, où il a été exceptionnel. On l'écoute.
Je pense que c'était des opportunités qui se sont présentées pendant le match. Ce n'est pas quelque chose que j'avais ciblé, mais je pense que c'est aussi dû à mon passage à 7, où on sait que tous les rucks sont hyper importants de pouvoir contester. C'est notre force aussi avec l'équipe. Et c'est quelque chose que du coup j'ai travaillé, où jusque-là, je ne travaillais pas spécifiquement. Donc, sans dire que c'est un des bonus que j'ai eu aujourd'hui et sur cette fin de saison, j'espère. Je vais pas trop parler du 7 parce qu'après Hugo, ça a l'air de lui plaire.
Voilà, on le savait pas ça, mais Hugo, il est quand même moyen content qu'Antoine.
Non, quand il a annoncé que Antoine partait à Madrid dès aujourd'hui pour rejoindre le 7, on sentait qu'il n'était pas non plus ravi de laisser partir.
Non, mais c'est surtout qu'il a subi des 12 000 questions en conférence de presse depuis des mois. Avant le 7, pendant le 7, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se brosser les dents à 7, est-ce qu'il va avoir une chaussure d'une couleur à 7. Bon, on se met là-dedans aussi.
Tu te moques des journalistes qui posent des questions.
On est dans une machine médiatique un petit peu, vous le savez bien, il faut savoir le reconnaître des fois aussi. Mais voilà, c'est pour ça qu'il dit ça, simplement.
Wilfried pose souvent la question à quel poste peut jouer Antoine Dupont. Il peut jouer 6 maintenant.
Non, mais pour revenir à ce qu'il a fait, il a joué différemment aussi. Bon, le jeu au pied, on le sait, c'est celui qui a gagné le plus de terrain de mètres sur le jeu au pied.
52 de dingue.
Oh là là, il est deuxième cette année en Champions Cup là-dessus.
Et pied droit et pied gauche, n'oublions pas.
En plus,
faut surtout relever quand même que physiquement, c'est pas le même Dupont qu'on a vu à la Coupe du Monde. Hein. Je suis désolé d'en parler, mais là, il est revenu physiquement en top niveau. D'ailleurs, il y a des stats qui disent qu'il va plus vite parce qu'il a fait des entraînements à 7 qui lui ont permis de gagner en vitesse. On le voit. Puis surtout, physiquement, il est monstrueux. C'est-à-dire que je pense que c'est pas que le 7. Je crois qu'il a besoin de se régénérer quelque part. Il l'a dit, tu vois, de refaire du frais quelque part. Et je crois que le 7 lui a apporté ça.
Et il faut donc envoyer les joueurs de l'équipe de France en stage avec les préparateurs physiques de l'équipe de France à 7, hein, en gros.
Non, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il a loupé le tournoi de destination. Ça lui a fait du bien.
Ouais.
Je pense aussi que...
Il a fait du frais.
Non, mais je veux dire, par là, on sait très bien la pression que ça demande. Il est capitaine de l'équipe de France. Donc déjà, il avait plus de recul. Il a pu souffler. On le voit. Et puis aujourd'hui,
on se disait, qu'il repoussait les limites.
Ouais, on se posait la question avec Yann samedi soir après match, si c'est pas aujourd'hui
Yann
déjà
Delegue,
le meilleur joueur de l'histoire du rugby.
De l'histoire du rugby dans le monde?
Ouais, non mais
dans
l'influence.
Pas dans le monde,
dans l'histoire.
La question va se poser d'ici. Il a 27 ans. Hein, donc
toujours très difficile de
champion du monde.
Un joueur qui a autant d'influence sur le jeu qu'Antoine Dupont.
Mais s'il n'est pas champion du monde, écoute-moi, s'il n'est pas champion du monde, la réponse, tu l'as.
Oui, mais s'il l'est, c'est que la réponse, c'est là aussi, je pense. Oui, mais
le jeu aujourd'hui qu'Antoine Dupont, il n'y a aucun joueur qui a pu avoir autant d'influence que lui.
Mais je suis désolé, mais
entre son jeu au pied, les grattages, l'animation. Non, mais il fait des choses que personne d'autre ne sait faire.
Non, mais Denis, ça n'existe pas. Tu vas dire à Dan Carter ou à Richie Macko, bien sûr, Dan Carter, le nombre de points qu'il a mis et tout, mais il ne défendait pas comme lui, il ne grattait pas les ballons au sol, il a inventé un prototype de joueur. Denis, il n'y a aucun joueur qui fait tout ça.
Joueur total.
Non, mais moi, je suis d'accord.
Exactement. C'est un joueur total.
C'est
la longueur du jeu au pied, sa défense, son attaque. Maintenant, il gratte au sol, il l'a ajouté, ça. 4, il en a fait 4 en finale. Donc, ça n'existe pas.
la question elle se pose pas là. C'est-à-dire que si on en revient à la question de Julien, si Aroy c'est le meilleur joueur du monde de tous les temps, il faudra qu'il soit champion du monde, il faudra qu'il ait une influence sur le titre champion du monde, comme l'a été Wilkinson avec l'Angleterre, comme l'a été Carter, parce que c'est pas que, c'est pas qu'un problème de statut. Mais je suis désolé. Oui, mais je suis désolé, en quart de finale, Coupe du Monde, ce ne sont pas fait gagner.
Les match winners, ceux qui te font garder les gagner les grands titres.
Denis, tu vas pas comparer l'Antoine Dupont du quart de finale du Antoine Dupont qu'on a vu hier. On avait un demi
Les plus grands joueurs de l'histoire sont ceux qui font gagner les grands matchs. Les plus grands matchs de l'histoire.
Antoine Dupont a fait gagner.
Il n'a pas fait gagner l'équipe de France. C'est comme c'est le niveau international que tu juges de la grandeur d'un joueur.
C'est comme ça. Tu pourras rien y faire.
Mais s'il est champion du monde, on en reparle.
Ah oui, oui, oui.
Il n'y a pas de profil comme lui. Ça n'existe pas. Joueur, t'as exactement ce que t'as dit, Christophe. Joueur total. C'est-à-dire que tu peux le mettre, il va pouvoir jouer troisième ligne à la Botia maintenant, pour plaquer et gratter les ballons au sol.
Et je vous rappelle qu'il a été énorme en numéro 10 au Stade Toulousain où il a traversé le terrain à Bayonne pendant le tour à destination où on se demandait même s'il n'était pas meilleur 10 que 9 à un moment. Non, mais il est stratosphérique.
Mais encore une fois, il est plus fort que jamais aujourd'hui parce que ça porte le fait qu'il soit régénéré, le fait qu'il ait fait du 7, le fait. C'est pas le même Dupont, j'ai pas l'impression. Voilà, c'est ce que je vous dis. On le semble plus fort.
Et le gars a de l'ambition parce que là, il y a la Champions Cup évidemment. Maintenant, il rêve de bois et d'or, je crois. Hein. Le bois, c'est le bouclier de Brennus et l'or, c'est la médaille d'or olympique à Paris avec l'équipe de France de rugby à 7. Vous le pensez capable justement de ramasser ces, après la déception de la Coupe du Monde, de ramasser ces trois récompenses. Les deux premières,
ça me paraît pas
troisième. Le titre, il a deux matchs, ça va être compliqué de les battre. Avec la les JO, il y a trop d'équipes fortes pour dire qu'ils sont favoris, qu'ils vont tout écraser. Donc,
mais bon, depuis qu'ils ont gagné le tournoi avec lui,
moi j'aurais plutôt plus retenu sur les JO quand même. Mais bon. Après, on ne sait jamais. Avec lui, effectivement, il t'apporte un supplément de confiance, de tout. Quoi. Donc, je ne sais pas. C'est difficile à répondre.
Voilà, juste pour un petit résumé, on a des petits résumés statistiques sur la finale. On nous met Antoine Dupont a battu le plus grand nombre de défenseurs en finale, à lui tout seul, a remporté le plus de turnovers, donc grattage au sol 4. Le nuit de mêlée a également réalisé le plus grand nombre de coups de pied dans le jeu 19, a enregistré le plus de mètres au pied, 665, devenant ainsi, juste pour finir, le cherry on the cake, devenant ainsi le premier joueur cette saison à réussir 2,50-22 dans un match. Voilà, donc à chaque tour, on le connaît depuis des années, on se dit, mais il va pas pousser les limites à chaque fois. Bah, il pousse des petits centimètres en plus, là, à chaque fois sur ses limites. Et franchement, on est bluffé.
Et t'as oublié, il a contré aussi un dégagement.
Oui, qui n'a pas eu de conséquence, mais il a
Il s'est fait intercepter s'il y a une petite balle. Il s'est par le talonneur irlandais qui aurait pu coûter un essai. Et puis finalement, c'est lui qui vient gratter la balle.
Avec lui. C'est plus facile avec lui.
C'est lui qui vient gratter au bout du compte.
Dupont, chef de meute d'une meute de loups jamais rassasiés, des joueurs qui avaient été titillés par leur coach il y a quelques jours, qui avait dit que ces joueurs n'avaient pas encore marqué l'histoire du Stade Toulousain. Là, avec deux titres de Champions Cup, trois boucliers en six saisons, ça commence à devenir sérieux. Qu'en pense Thomas Ramos, qui avait été blessé dans son orgueil? On l'écoute.
C'est sûr qu'on, bien évidemment, qu'en quatre ans, depuis 2019, ce qu'on fait, c'est beau, c'est bien, mais ils sont tout le temps là aussi pour nous rappeler que, bien évidemment, qu'il y en a qui ont un palmarès bien meilleur que le nôtre pour le moment. Mais voilà, notre but aussi, c'est de continuer et d'essayer d'aller titiller pour, je vais pas dire pour être la meilleure génération de ce club, mais en tout cas pour essayer de garder une trace de notre génération dans ce club, bien évidemment.
Bon, je pense que la trace, elle est déjà là. Hein.
Ils vont sûrement finir comme la meilleure génération de l'histoire du club.
Bah, je pense qu'il dit, je vais pas dire pour être la meilleure génération
Denis,
de ce club.
Denis, désolé, mais ils vont effacer les certainement.
Ah ouais, c'est quoi la meilleure génération jusqu'à présent? La meilleure génération qu'a...
Ah bah, c'est celle qui a trois Coupes d'Europe 2003, 2005, 2010 avec
Michalak, prenez le
ouais ça comme mais ceux qu'on a reçu Poitrono et Bouillon dans le podcast et oui voilà ouais c'est ce qui part de 99 à 2012 là c'est assez long hein, ça fait 12-13 ans hein, donc eux ils sont partis de 2019 donc ils peuvent aller jusqu'à au niveau du 2029.
Ouais, au niveau du palmarès, ils sont, on va dire, aujourd'hui,
ils sont pas loin.
C'est
hein.
Les générations qui sont pas loin, voilà, ouais, bien sûr.
Ouais. Mais bon, les autres, c'est trois générations.
Ils ont déjà dépassé la génération de Denis, alors c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Ils ont la Coupe d'Europe en plus que Denis n'avait pas.
Ouais, on n'a pas de Coupe d'Europe. C'est dommage.
C'est dommage. Oui,
on a gagné le premier Master.
Bon, donc vous êtes médaille de bronze des générations toulousaines,
voilà.
Denis.
Là, celle qui est devant, c'est peu. T'as dit pelouse, Josion, c'est pelouse, Josion, voilà, Aimant, Claire, tout ça, voilà. Ils sont à l'affût, là, ceux-là. Okay.
Bon, mais on verra, on fera le bilan à la fin du bal, hein, comme dirait l'autre. Cette génération est tellement forte qu'Hugo Mola est obligé de faire des choix cornéliens en matière de compo. Hein. Bon, Guinoves a dû faire aussi les mêmes à son époque. Comme celui, par exemple, de faire débuter Thomas Rabos, qui est l'arrière titulaire de l'équipe de France et l'un des meilleurs buteurs de la planète sur le banc. Choix assumé par le coach, accepté du bout des lèvres par Ramos, qui a été interrogé à ce sujet.
Critiqué par Christophe Cessieux.
Pardon ?
Ouvertement critiqué par Christophe Cessieux.
Ramos ? Ah non, le choix. Non, mais parce que j'avais peur. Et quand King Horn rate sa première pénalité, je me dis, mais pourquoi on n'a pas mis Ramos ? Bon, après, Ramos est rentré, en a raté une, lui aussi, à son tour. King Horn a été énorme.
Oui,
mais
il a mis deux premières.
Mais écoutons-le, on s'explique après.
Voilà. C'est forcément dur à encaisser parce que tous les joueurs veulent jouer ce genre de match. Et puis après, la semaine passe et puis tu as le temps de digérer et puis de te concentrer sur ton rôle et sur ce que tu dois apporter à l'équipe à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça. Que ce soit commenté, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, ça l'est. Mais nous, à l'intérieur du groupe, ça l'a pas forcément été. J'ai eu cette petite blessure à Bordeaux qui m'a empêché de démarrer le 8e et le quart. Donc forcément, c'est aussi la logique de continuer avec les mecs qui ont fait des très bons matchs sur ces matchs-là. Mais j'étais déterminé à 100% et peu importe si j'allais buter ou pas, en tout cas, j'étais déterminé à 100% pour apporter le maximum, quoi.
Alors, c'était le bon choix fait par Hugo Mela ?
Denis, le contexte et la physionomie du match, lui donne raison, Hugo.
Bah, bien sûr.
Forcément. Il fait une très bonne rentrée. Il fait une très bonne rentrée, Ramos, et puis il met ce but qu'il faut les mettre aussi. C'est deux buts, il en met non, je crois, deux ou trois. Mais...
Non, il met plus. Il met
les trois premières, je crois. Il rate la quatrième.
Je l'avais plus.
Une transformation et trois pénalités, je pense qu'il doit être à 11 points, Ramos.
Non, mais je te parlais de King Horn.
King Horn, il en loupe qu'une.
Parce qu'après, il bute plus.
Bah après, c'est marrant parce qu'il y a une pénalité où ils sont tous les deux sur le terrain. Non, King Horn, il en met 4, mais il en loupe une. Et Ramos, derrière, met 1, 2, 3, 4 coups de pied. 5 coups de pied. Et Ramos va le voir, il lui laisse le choix. Il lui dit, c'est toi qui butais. Et apparemment, King Horn lui dit qu'il a un peu mal au mollet. Donc il prend la suite. Mais King Horn, dans le jeu, il est en Champions Cup. Enfin, vous avez vu sur les chandelles,
il était monstrueux.
En plus, c'est l'un des domaines où les joueurs français sont critiqués depuis un moment maintenant. Ouais. Le jeu en l'air, je dirais, sous les chandelles, c'est quand même pas notre point fort. On a encore été. Ça a été difficile pour les autres, mis à part les joueurs étrangers, mais pour les Français, ça a été compliqué.
C'est d'ailleurs un des moments clés du match encore où les Irlandais récupèrent toutes les chandelles. C'est quand King Horn est déplacé sur l'aile et qu'il ne va plus lutter, notamment sur les ballons aériens, parce que les Irlandais tapent de l'autre côté de son aile. Et c'est vrai que c'est un moment où les Irlandais ont pris l'ascendant en mêlée, ont pris l'ascendant sur les ballons hauts et qu'on sent que le match est en train de prendre une mauvaise tournure. Mais c'est vrai que. Le choix de King Horn, évidemment, il fait causer, mais il est tellement déterminant. On rappelle, ça fait 12e match que King Horn dispute avec le Stade Toulousain pour une 12e victoire.
Il est meilleur que le titulaire de l'équipe de France à l'arrière.
Non, mais il signait.
Il est peut-être un poil plus complet. Ça doit pas jouer à grand chose. Et souvenez-vous ce retour qu'il fait sur Chiyan aussi. C'est lui qui va chercher le talonneur qui part à l'essai. Il fait 1m95.
Pas le naturaliser,
la dimension physique qu'il a. Non, c'est trop tard.
C'est trop tard. Il y a quelques sélections déjà.
C'est trop tard.
avec son pays. Ouais. Les Toulousains qui, après ce triomphe, sont donc rentrés à Toulouse. C'était hier après-midi pour y être célébrés par le peuple toulousain dans une fête magnifique et habituelle sur la place du Capitole qui a donné lieu aux images habituelles de bonheur et qui contraste évidemment avec ce qui se fait dans le foot, notamment ce week-end à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Enfin, je dis rien. Une fête à laquelle les joueurs ont pris part avant de se remettre au boulot dans quelques jours car la saison n'est pas encore terminé. Il y a désormais un doublé à aller chercher, Monsieur Mola.
Ne vous inquiétez pas, ils vont le célébrer au moins pendant 2-3 jours. Et après, on verra si on est capable de se remettre au boulot pour valider encore une fois un niveau de championnat qui mérite au moins qu'on aille jouer avec l'énergie nécessaire pour aller jouer une demi-finale, avant de parler de doublé.
Voilà, avant de parler de doublé, il faut déjà les remettre dans le bon sens. Ils ont fait une grosse fête hier soir, Wilfried. Toi qui
ne quittes jamais. Bah, ils ont dormi très peu. Tamak me disait qu'il avait dormi 2 heures. Donc ils se sont retrouvés au club hier soir. Voilà, ils finissent au petit matin. Et la question, c'est de savoir s'ils remettent ça lundi soir.
Oui, parce que Hugo Mola nous a dit samedi soir qu'ils avaient déjà négocié jusqu'à mercredi.
Ouais, bah mercredi justement. Non, mercredi, il y aura une petite clarity, comme ils nous ont dit, là, vous savez, ces entraînements en marchant, avec certainement peut-être l'équipe qui va jouer dimanche, mais quand même.
Et s'ils marchent pas droit, ça reste de la clarity ou
clarity avec chaussures à bascule.
Clarity pas très clair, hein, pas très net.
not too much clarity.
Bon, enfin, l'avantage, c'est que
ils sont déjà qualifiés.
Ils sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Ça, ouais, ça change quand même pas mal de choses. Et ça change pas mal de choses aussi pour les équipes qui vont les affronter, même si on a vu qu'avec une équipe bis ou une équipe terre, ils étaient capables de rouler sur les adversaires. Mais enfin, pour eux, ils vont pouvoir se reposer. Ils n'ont pas l'obligation de l'emporter face à La Rochelle dimanche, face à Lyon dans 2 semaines. Et ça change les choses quand même, non ?
Oui, mais je pense que c'est au stadium contre La Rochelle. Donc voilà, devant 33 000 personnes.
Avec la Coupe d'Europe pour accueillir les Rochelais.
Voilà,
terrible ça. Oh, c'est pas gentil ça.
Ils vont peut-être il faut voir compter les gars qui restent, hein, parce que il y a eu de la casse, il y a des inquiétudes. Bon, Julien Marchand, ça va peut-être mieux là, il a entendu son pied craquer, mais il disait que ça allait mieux. Bon, faudra voir. Il y a inquiétude en deuxième ligne en fait, parce que Meafou est touché aux ischios, et vous savez que sur des cuisses comme ça, un morceau de bœuf, si c'est une déchirure, ça peut être très long.
Arnold va prendre moins de 3 semaines.
Est suspendu. Joshua Brennan est commotionné. Verger, le jeune qui joue, a été touché à une épaule à Montpellier. Donc les deuxièmes lignes, il reste plus que Flamand et face à Lélé là. Après Pitaki est touché aux adducteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choco Barret, ça risque d'aller, mais bon, faut peut-être en reposer. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont donné là avec prolongation? Donc je sais pas, faudra ménager l'équipe. C'est sûr que le match à Lyon, il comptera peut-être pas trop pour eux. Et puis après, pendant les barrages, ils se reposeront, ils joueront en demi-finale. Donc c'est vrai que celui-là, s'ils veulent gagner chez eux pour être tranquilles, devant leur public, marquer le coup quand même après la victoire en finale Coupe d'Europe, faudra peut-être panacher un peu l'équipe.
Que les anciens, ceux qui vont prendre leur retraite à la fin de la saison, seront sans doute appelés à jouer le match face à La Rochelle.
Bah, Guitoune,
mais il y a une donnée à prendre en compte après. Par contre, il faut pas oublier, c'est que dans ce championnat très serré, et que n'oublions pas que La Rochelle recevra le Racing à la dernière journée du top 14, qui ne sera peut-être pas qualifié, Toulouse a peut-être l'occasion ce week-end de mettre un bon bâton dans les roues de La Rochelle en vue d'une qualification pour les phases finales. Et que...
Tu crois qu'ils ont plus envie de mettre des bâtons dans les roues de La Rochelle que du Racing ?
Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que ça soit une excellente nouvelle pour le Stade Toulousain de recevoir de jouer La Rochelle en finale.
Non, ce qui ne serait pas une bonne chose et un bon calcul pour Toulouse, c'est de prendre Bordeaux en demi-finale à Bordeaux.
Ça, ouais, alors là, il va falloir compter.
Ils pourront pas. Deuxième, là, c'est compliqué.
Oui, mais sur deux matchs, comment on fait ?
Ce qu'ils peuvent faire, c'est éliminer La Rochelle ce week-end. Et ça, c'est pas négligeable.
Ouais, je sais pas si ça. Enfin, bref. On verra ça. Et puis, donc, derrière, il y aura quand même pas mal de repos jusqu'à cette demi-finale. On rappelle que les demi-finales auront lieu à Bordeaux. Ce sera les 21 et 22 juin prochains. Donc, il y aura quand même le temps d'en reparler. Denis, le doublé, franchement, on ne voit pas qui pourrait les empêcher de le réaliser, le doublé. À moins qu'ils fassent la fête sur 3 semaines, mais bon.
Non, mais je ne pense pas. On dit 2-3 jours, mais je pense qu'ils vont faire 2 jours et encore. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre quand même sur le toit. Après, cette équipe, elle est redoutable parce qu'elle est en confiance et qu'elle n'a rien à perdre. Que je ne vois pas comment et je ne vois pas quelle équipe peut la contrarier. Le doublé, ça me semble pas évident, mais ils sont bien partis pour eux.
Ouais. Surtout si ils continuent sur leurs points qui sont devenus forts. On parlait de Serok, c'est comme ça que les adversaires au top 14 les embêtaient. Je parle souvent du match à Bordeaux au Matmut là au mois de mars où il aurait fait la guerre au sol. Mais s'ils rajoutent cette corde à leur arc en plus, c'est-à-dire d'avoir très peu de points faibles, on les a vus sur le jeu au sol. Et il faudra revoir ça aussi. Les Irlandais le font pas mal. Ils viennent gratter, ils font un demi-tour vers le camp adverse et là c'est fini. Et voilà, s'ils continuent à faire ça, c'est injouable avec l'expérience qu'ils ont, l'effectif, tout ça, c'est bonne chance.
Oui, et puis les équipes qui vont jouer ne sont pas aussi fortes, voire moins fortes que celles du Leinster. Hein. Je suis désolé, mais Leinster, c'était quand même un drôle de l'adversaire. Hein. Ils ont réalisé quand même un exploit de les détrôner, ou en tout cas de les battre samedi.
Quel niveau, franchement.
Ouais. Un mot justement sur le Leinster, messieurs.
Ils ont recruté deux monstres, Christophe.
Jordi Barrett.
Jordi Barrett et Slimane, qui est pour moi le meilleur second ligne au monde.
Slimane,
actuellement.
C'est pas
le Slimane, le chanteur, Denis. Hein.
Slimane.
Oui. Ouais, d'accord. Tu avais dit Slimane.
Il fait 2,05 m ou plus ou 6.
Ah, c'est le sud-africain,
des boxe.
Oui, le
sud-africain. Ah, oui, avec cette petite. Donc, ils ont fait deux grosses recrues qui risquent de leur apporter beaucoup, surtout Jordi Barrett derrière, au centre.
Mais Jordi Barrett, c'est aussi
un. Faut aussi avoir une pensée pour les perdants, et c'est ça, terrible, parce qu'ils ont perdu celle de 2019 aussi face aux Saracens, et 3 de donc ça fait 4 finalement de suite.
Et comment ils les ont perdus, parce qu'ils les perdent toujours à la fin, hein.
C'est le pire des années 2020.
Là, s'il ne drop pas, s'il gagne. L'année dernière, souviens-toi, cette finale.
Ils ont eu des occasions. Denis, ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions d'essai. Les Toulousains ont été à l'inverse pragmatiques, ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus. Et le Leinster n'a pas, à part orgueil, été chercher les essais, les touches, au lieu des fois de taper peut-être les pénalités. Ils doivent être effondrés. On a vu Gibson Park, l'image de Gibson Park pleurer sur le terrain. James Ryan, il est venu en conférence de presse. Il était livide, on sentait qu'il avait les yeux hagards.
Ouais,
c'est terrible pour eux. Ils font l'effort, bravo, ils reviennent à chaque fois en finale, faut y revenir. Et à un moment, ça va dans la tête, c'est fou, quoi. Je sais pas comment vous en sortez, mais voilà, une pensée pour eux. Toulouse a été plus fort.
La malédiction.
C'est dur pour eux.
Très dur.
Même si ils étaient bien revenus, justement, après avoir perdu deux fois en finale contre La Rochelle, ils ont quand même mis quelques danses au Rochelet cette année en Champions Cup.
Ouais,
donc
ils
ont
fait les choses, quoi.
On peut s'attendre à les voir de toute manière revenir et être toujours,
ils seront toujours
présents
là,
au haut niveau. Mais bon, ce qui serait bien maintenant, c'est que l'équipe de France arrive à battre l'Irlande comme les clubs français battent les clubs irlandais. Ce serait bien ça, hein. On espère quand même, messieurs.
Oui, que ça change un peu.
Ce serait pas mal, parce que cette équipe d'Irlande, elle ressemble quand même à s'y méprendre à cette formation du Leicester. C'est pas beaucoup de différence.
C'est juste
entre
le maillot
les
qui change.
Ouais, c'est ça. Ils changent de couleur, mais autrement, c'est les mêmes, avec quelques renforts supplémentaires, notamment la saison prochaine, effectivement, avec Barrett et Snyman. Ça va être costaud.
Juste pour finir sur le championnat, tu parlais de Bordeaux, le Stade français, on en parlait aussi après les discussions d'après-match. Ce sera peut-être pas. Ce sera chiant à jouer.
Ce sera peut-être pas en demi-finale,
puisqu'ils sont dans les deux premiers. Ce sera en finale. On dit Toulouse a une autoroute. C'est vrai, c'est les favoris. Mais bon, sur un match, avec des faits de match, des cartons rouges, des choses comme ça.
Tu crois vraiment à ce que tu dis ?
Non, Toulouse est archi favori pour moi. Vous avez vu le niveau qu'ils mettent. Bien sûr. Mais on parle beaucoup de Bordeaux dans les discussions. C'est vrai que le Stade français dit rien, on n'en parle pas. Mais avec une énorme conquête et
manquera de l'expérience.
Défense. Mais il y a du vrai pragmatisme au Stade français.
Denis qui voit les matchs du Stade français toutes les semaines, évidemment. On veut avoir ton avis sur le Stade français.
Le Stade français, c'est imprévisible. La vérité, c'est que là, quand ils ont reçu Bordeaux, ils ont pas fait un grand match, mais ils les battent. Ils ont quand même un état d'esprit incroyable cette année. Donc c'est vrai que devant, c'est costaud. En mêlée, c'est très costaud. Donc je pense que le Stade toulousain aura fort affaire en mêlée fermée, si jamais il est joué en finale. Mais on sait jamais. Mais après, je pense que l'expérience. Tellement au-dessus, c'est-à-dire que je vois pas comment Toulouse pourrait perdre contre eux, mais en finale.
Très bien.
Faut se préparer pour le Capitole, c'est ça? À nouveau.
Toulouse.
On vient, on gagne et on s'en va. Ouais.
C'est bon, j'ai le reportage de ce week-end, on pourra le remettre.
Merci les garçons, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de quoi alors du coup maintenant là, hein? Des adversaires
éventuels. De la course aux phases finales.
Il reste quelques places à aller prendre encore dans ces phases finales. Merci les garçons, à la semaine prochaine.
Ciao, nouvel
épisode d'Entrée les poteaux. Ce sera lundi prochain. Bonne semaine. Ciao.